bonjour et bienvenue à Escale 17-18 avec Fulgence Blanc au micro et Nicolas Fatman à la technique. Oui, c'est lundi, ça veut dire qu'à partir de après la première pièce musicale, la chroniqueuse de nutrition, la docteur en nutrition, Louise Thibault sera avec nous pour nous parler de souper énergie ou souper détente. Le choix est à vous, restez à l'écoute si vous voulez en savoir plus. Après la première pièce musicale et en deuxième partie d'émission à partir de 17h30, je vais recevoir Christophe Clary, qui est un journaliste sportif américain, correspondant du New York Times et de l'International Herald Tribune. Ils vont parler du livre Federer, le maître du jeu, tennis. Voilà, il faut le faire. On part tout de suite en musique avant de laisser, avant d'avoir Louise Thibault pour nous parler de souper énergie ou souper détente. Le choix est à vous, comme elle le dit. Alors c'est parti tout de suite avec qui? Avec Donald et la complicité de Mindo, le vocaliste Guyard Phil.
Yeah. Tigi mose duze Nagumela Gwenze njani Yes fela Yes tande Yes fela Mina yes tande Yes fela Yes tande
Voilà, c'est fini comme ça avec la voix de Donald et la complicité de mine de vocaliste. Là. Louise Thibault est déjà au bout du fil, elle va nous parler de souper énergique, énergie pardon, ou souper détente, à vous le choix. Voilà, ce choix, ce que l'on mange au repas du soir, le souper au Québec, selon les activités qu'on a. Et puis après, pour terminer rapidement, voilà, un livre de coup de cœur sur la nutrition qui nous sera aussi proposé. Alors, bonjour Louise.
Bonjour Fulgence.
Alors,
qu'est-ce ça que va tu...
Oui, ça va bien, merci.
Le souper, ça te dit quelque chose?
Oui, c'est le repas du
au
soir.
Au Québec, pour ceux qui ne sont pas Québécois ou qui ne connaissent pas l'expression, c'est le souper, c'est le repas qu'on prend, pas en fin de soirée, mais avant de débuter la soirée.
Oh oui, bah c'est le repas du soir ici au Québec.
Ben, c'est ça, ici au Québec,
voilà,
particulièrement.
Voilà. C'est ça, c'est
et puis, je vais vous parler de mon livre coup de cœur, qui est un livre sur la nutrition, mais qui a été écrit par une pédiatre.
Okay.
Très bon livre, donc on va se garder un peu de temps à la fin
okay.
pour ça. Donc, moi, je vais vous proposer une stratégie alimentaire qui va convenir à vos soirées. Alors, selon...
Voilà, donc, avant de laisser continuer, d'accord, c'est quoi le souper énergie ou bien le souper détente?
Ben, c'est un repas qui va vous permettre soit de performer dans la soirée.
Oui, moi j'ai pas envie de performer en soirée, quoi. J'ai envie de dormir.
Comment est-ce que vous passez vos soirées habituellement, vous qui nous écoutez, et toi aussi, Fulgence?
Tranquillo. Voilà. Ouais, c'est comme
alors,
ça.
Alors, on parle de soirée détente dans ton cas.
Voilà, tranquille, bon. Ça dépend. Bah, parce que pour moi, marcher, c'est pas aller au gym. Non, c'est autre chose. Je peux faire une marche détente après le souper, là, pour avoir une bonne digestion, quoi. Là.
Mais tout le monde n'est pas comme toi.
Ah non, je veux pas que je suis unique. Je comprends tout le monde.
Il y a des parents qui nous écoutent. Souvent, ça y va fort. Là. Les enfants arrivent de l'école, on mange, on fait faire les devoirs, on prépare les lunchs du lendemain.
Oui.
On donne les bains. Et puis, y a plusieurs personnes aussi qui rattrapent le retard accumulé au travail dans la soirée.
Ah oui. Non, de toutes les façons, je commence toujours la préparation de l'émission du lendemain en soirée aussi, quoi, quand j'ai des 30 kilos.
Il faut peut-être avoir un peu de performance dans tout ça.
Voilà.
Donc, il y a certaines personnes qui font des cours du soir, qui font souvent les cours, par exemple le MBA, c'est le soir. Alors, doit étudier ou même travailler. Donc, si vous faites une ou toutes ces activités, vous avez besoin d'un repas d'énergie. Bon, c'est quoi un souper d'énergie?
Oui.
C'est un repas qui va vous aider à combattre une tendance naturelle que notre cerveau a à se relaxer en soirée.
Oui, c'est ça.
Bon. Alors, le but du repas d'énergie, c'est de garder un cerveau alerte et éveillé.
Oui.
Et la règle numéro un, c'est de manger léger. Autrement dit, restez un peu sur votre faim. C'est une bonne chose parce que ça va vous aider à remplir vos activités, vos obligations durant la soirée.
Oui.
Alors, parce règle que numéro un, petit repas. Règle numéro deux,
oui.
Pas manger de dessert sucré. Parce qu'un dessert sucré, ça va endormir votre cerveau, ça va prédisposer à la relaxation. Alors, on garde ça pour le repas de souper détente. Mais si vous aimez vraiment le dessert ou si vous ne pouvez vous en passer, gardez-le pour une collation une fois vos activités terminées.
Ah, moi, d'accord. OK.
Bon, alors, on scinde ou on divise le repas, on fait le mets principal et le dessert en deux. Un, avant de faire vos activités, d'aller à vos cours et puis de préparer votre chronique, peut-être, pour le lendemain, et ensuite, attention, la collation de soirée ou de fin de soirée, elle devrait être environ 1 à 2 heures avant d'aller au lit. Parce que s'il y a une digestion un peu difficile, ça peut vous empêcher de dormir. Donc, cette collation-là, elle va vous permettre, elle sera sucrée, elle va vous permettre de décompresser et elle va prédisposer votre cerveau au sommeil.
OK.
Donc, on retient un petit repas
Oui. Léger.
pour maintenir un bon niveau d'énergie et une petite collation en soirée pour
Moi,
décompresser.
j'ai bien retenu le mot léger, un repas léger.
Léger. Léger.
Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on met au menu? Ben, vous savez, Jean, vous savez peut-être, vous tous qui m'écoutez, que j'ai écrit des livres.
Oui.
Et puis, un de ces livres, ça s'appelle Nourrir son cerveau. Et dans ce livre-là, ben, j'ai justement des menus de souper d'énergie. Donc, par exemple, un ragoût de poulet avec des pâtes al dente. C'est important de manger des pâtes al dente parce que elles vont fournir de l'énergie, mais petit à petit. Donc, ça va vous permettre de garder le rythme durant la soirée et un légume vert.
Oui, à quoi ressemble, comment, quelles sont ces pâtes al dente là? Parce que les gens qui nous écoutent vont dire, mais c'est quoi?
Al dente, c'est cuit. Pas trop cuit, il faut que ça croque un petit peu sous la dent.
Ah bon, à l'italienne, quoi.
À l'italienne,
Oui,
exactement.
d'accord.
Ouais. Et puis pour les végétariens, eh ben vous pouvez manger du tofu. J'ai une très bonne recette de sauté de tofu avec encore une fois des nouilles, mais al dente et un légume vert. Donc c'est ça, un repas d'énergie, un repas léger.
Ah.
Ouais.
Ah,
Maintenant.
tu nous apprends des choses, toi.
Ben, en tout cas, c'est une théorie qui a été dûment
Louise.
vérifiée par mes collègues scientifiques et que j'ai expliquée dans mes livres.
Oui.
Alors, si la soirée, c'est vraiment la détente, on prend une marche pour se relaxer
Oui.
et où on fait une soirée télé, on va au cinéma, au théâtre, au restaurant. Pas par affaire, évidemment, mais au restaurant pour se détendre, et bien là, c'est le repas détente. Donc, il y a des aliments qui vont encourager la tendance de notre cerveau à se relaxer en soirée. Et puis, pour un repas détente, on peut manger un peu plus. Donc, un repas un peu plus lourd va nous aider à se préparer, à relaxer et à se reposer pour la nuit. Et un dessert un peu sucré et même un fruit pourrait même prédisposer au sommeil. Donc, on peut
Mais pas
manger.
trop, quoi, juste un peu sucré.
Ben, parce que certains sucres ont des pouvoirs calmants.
Voilà.
Donc, ont des pouvoirs relaxants, ont des pouvoirs même positifs sur l'humeur. Mais tous les sucres n'agissent pas de la même façon. Donc, dans mes menus, dans mes suggestions, par exemple, de dessert sucré, ça peut être un gâteau, ça peut être un biscuit sucré, mais ça peut être aussi un fruit. Et la semaine dernière, je me souviens que tu m'avais dit que tu aimais les mangues.
Ah, j'en ai mangé une cet après-midi avant de venir.
Ah ben, tu peux en manger une ce soir encore parce que la mangue, c'est un très bon fruit
Oui.
qui va justement avoir un effet relaxant sur le cerveau.
Ouais, j'ai dit merci à mon épicier juste à côté qui en a tout le temps de belles mangues. Quand je les vois, je ne peux même pas les dépasser.
Mais là, c'est la saison apparemment parce que
C'est
j'en vois
ça.
beaucoup dans les marchés.
Oui, c'est la saison, c'est vrai. J'adore les mangues, Louise.
Oui, ben, moi aussi, j'adore les mangues. Et une personne qui adore les mangues, c'est Dany Laferrière. D'ailleurs, il en parle dans ses livres,
Oui.
ou un de ses livres, il parle des mangues.
Oui.
Il y avait toujours une mangue, quelque part. Bon. Alors, salut Dany, continue de manger tes mangues parce que c'est bon pour ton cerveau.
Voilà. Pour nous sortir de très beaux livres.
Ben oui, d'ailleurs, je l'ai rencontré à quelques reprises dans des salons du livre, un chic type. Pour en revenir à mes menus, on
Louis
va dans toutes les
Thibault.
directions. Alors le soir, dans le repas de détente, ce n'est pas nécessaire de cuire vos pâtes al dente, vous pouvez les cuire un peu plus, elles vont avoir un effet plus relaxant. Et vous pouvez manger du riz blanc, parce que le riz blanc a un effet plus relaxant sur le cerveau que le riz brun. Il contient des sucres qui sont absorbés plus rapidement, donc qui vont avoir un effet relaxant quand même assez présent. Et les végétariens, parce qu'il y en a beaucoup, vous pouvez manger une soupe aux lentilles avec du pain de maïs. Vous pouvez manger pour dessert, vous tous, ben, melon d'eau, mangue, même crème glacée, la fameuse glace. Donc, vous pouvez vous permettre vraiment un dessert sucré durant le repas. Et puis, ben, ça va vous mettre dans l'ambiance de relaxer.
Oui, oui, oui. Ouais. De temps en temps, ça m'arrive aussi, de la crème glacée après le repas.
Oui, ben, c'est bien, c'est ouais. bien. Une fois de temps en temps, c'est
ouais. Faut pas en abuser.
Non, ben c'est comme... Sauf, il y a une chose dont vous pouvez abuser, c'est la lecture. Oui, c'est de lire des livres.
Oui, non, faut pas exagérer. Là. Oui, on lit, mais faut pas exagérer là non plus. Faut
ah ben moi, j'exagère un peu. En fait, 80% de mes lectures, ce sont des lectures alimentaires. Je lis beaucoup, beaucoup de livres sur la nutrition. Ouais,
les recherches que vous faites. Hein.
Pas juste des livres scientifiques, mais des livres pour tout le monde.
Pour tout le monde aussi, oui, d'accord.
Ouais, dont le livre de la docteure Julie Saint-Pierre qui s'intitule « Redonner la santé à toute la famille ».
Ouais.
C'est un très bon livre que j'ai lu de la première à la dernière page et c'est publié chez un éditeur québécois, Édito.
Oui.
Et Julie Saint-Pierre, elle est pédiatre, elle a écrit des articles scientifiques, elle a reçu de nombreux prix, elle travaille dans une clinique pour la prévention et le traitement de l'obésité chez les enfants.
Oui.
Elle est présidente fondatrice du réseau en santé cardiovasculaire et j'arrête là parce que la liste, elle est très très longue.
Ouais, une bio bien remplie, quoi.
Très bien remplie. Elle-même, elle enseigne la pédiatrie à McGill. Donc, je l'ai rencontrée lors d'une journée de formation sur l'obésité où elle était conférencière, imaginez-vous donc. Donc, elle ne s'arrête jamais et elle a pris le temps d'écrire un livre pour le grand public.
Comme toi, tu cours tout le temps aussi.
Oui, mais je pense que je ne cours pas autant que Julie.
Ah, moi d'accord.
Alors, c'est tout à fait le type de personne qu'on devrait entendre et voir dans les médias.
J'aimerais bien tu peux nous mettre en contact pour que je puisse
je pourrais parce que je déplore le fait que la majorité des médias
ouais.
eh ben elles préfèrent inviter des vedettes pour parler de nutrition et de santé.
Ah bon?
Bon. Donc
ce serait
voilà,
très apprécié, c'est
livre,
Louise.
Alors, ben, c'est publié chez Édito, c'est paru en 2021.
Oui, l'année passée.
Saint-Pierre, ouais. Elle démystifie plusieurs mythes qui circulent sur la santé et les régimes. Elle parle d'absolument tout dans ce livre, de l'étiquetage alimentaire à la grossophobie, à la santé des enfants. En fait, c'est un livre qui parle de la nutrition des enfants, des adolescents, des adultes. Elle-même, elle partage ses recettes favorites.
Ok, d'accord. Tu nous mets en contact pour que je puisse l'inviter à Escale 17-18 pour venir parler un peu de ce livre et puis de tout ce qu'elle fait, quoi.
Si elle a le temps.
Si elle a le temps, en fonction de son emploi du temps, bien sûr. Voilà.
Bien sûr, bien sûr. Alors, voilà, à retenir, un livre coup de cœur.
Ouais.
Et ben, on se reparle lundi prochain ou...
Oui.
En fait, tu me dis, je crois que c'est férié lundi prochain.
Lundi, c'est le 23?
Oui.
Oui, c'est férié.
Alors...
Si tu veux, tu passes le mardi?
Ça me ferait très plaisir de passer le mardi.
Ouais, au lieu de sauter toute la semaine, tu passes le mardi comme on l'a fait les deux dernières fois.
Super.
Il dit comme on l'a fait les deux dernières fois quand lundi était férié.
Et, oui, parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. Je vais vous parler des...
Toujours de quoi? Le jour que tu me diras que tu n'as plus rien à dire, là, je ne vais pas être content. Hein, je vais
les vertus de la collation.
Voilà. Merci beaucoup, Louise.
Bon, alors porte-toi bien.
Merci à toi aussi. Bonne semaine et puis à mardi alors.
À mardi alors.
Oui.
Au revoir.
Au revoir.
Je danse dans le sol.
Racine, voilà, on peut pas parler, on peut pas faire une émission lundi comme ça sans parler de la victoire de. Il y a Iga Swiatek qui a préservé sa série de victoires en s'imposant 6-2, 6-2 à Rome face à la Tunisienne Ons Jabeur. Donc la Polonaise sera l'immense favorite d'ailleurs de Roland Garros dans une semaine, ça commence bientôt là, voilà. Voilà, donc elle n'en revenait pas après son titre à Rome. Et puis du côté des hommes, c'est le numéro 1 mondial qui est revenu. Sa première victoire après tout ce qu'il a vécu en Australie, on se rappelle, donc à une semaine a fait d'entamer la défense de son titre à Roland-Garros. Novak Djokovic a remporté ce dimanche le Master 1000 de Rome en dominant Stefanos Tsitsipas, finale 6-0-7-6-5. Voilà, donc demain je vais revenir là-dessus en détail. Oui, mais j'ai beaucoup plus de temps demain, j'ai pas de chroniqueur en première partie d'émission. On va écouter la dernière pièce parce qu'en deuxième partie d'émission, je vais recevoir un très grand journaliste américain qui vient de sortir un livre sur Federer, le grand Roger Federer, qui est parti depuis sa blessure. Mais il n'a pas encore pris sa retraite, hein, non, officiellement non. Voilà, donc Christophe Aclaré qui vient nous parler de ce livre qui est sorti depuis le 12 mai. C'est tout nouveau, tout frais traduit, c'est un Américain, mais il parle français parce qu'il vit entre Boston et Paris. Et l'Europe, il est toujours dans les avions. Et là même, il est à Paris, il est venu de Rome. Et pour le Roland-Garros, le tournoi de Rome vient de finir. Donc, c'est de Paris qu'on va lui parler, que je vais lui parler. On finit, on peut écouter quelques minutes de cette pièce, cette dernière. Oui, c'est qui ça d'ailleurs? C'est Vanupier, Good Morning, avec la complice de Trevor Young et puis de Sheridas.
Today, oh today, is a good day, oh, a good day. Today is a good day, so why don't we play reggae music? Today's our day, so let's all dance on reggae music. Today is a good day, so why don't we play reggae music? Today's our day, so let's all dance on reggae music. See just sun shining. What are you waiting for? All the birds are singing. Have a walk, feel the air, leave your troubles out there. And feel warm and safety. You're in a natural country.
Joy bells are ringing, I hear the baroots sing. Écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Tu ne seras pas toujours là.
Oui, là, on vient d'écouter Martha dans le silence. Mon invité n'est pas encore au bout du fil, donc je vais parler un peu de ce livre qu'il a écrit, qui est sorti d'ailleurs depuis le 12 mai. Oui, il s'agit bien du livre de Christopher Clary, ouais, qui parle de Roger Federer. C'est une biographie, hein. C'est sincèrement, ce sont ses nouvelles. Et toutes ces entrevues qu'il a eues avec ce grand joueur de tennis, cette icône contemporaine d'ailleurs, et son palmarès, ses records qui se retrouvent dans ce livre. Il a interviewé aussi certaines personnes qui l'entourent, ou même ses rivaux historiques, Nadal, Djokovic, Sampras et autres, sa fille érotique. Voilà, cet auteur qui est journaliste sportif américain, qui écrit dans le New York Times, International Herald Tribune depuis plus de 30 ans. Longtemps commentateur à Eurosport, il est apparu sur les principales chaînes de télévision américaines, ancien joueur de tennis lui-même, et il est reconnu comme une autorité mondiale, une sommité en matière de... Et il a même le privilège de côtoyer les plus grands champions. Il réside entre Boston et Paris, et suit les tournois sur tous les continents. Voilà. Alors là, je suis très heureux de le recevoir, de parler de ce livre tout frais, qui est sorti depuis le 12 mai, Federer, le maître du jeu. Je ne sais pas comment Federer a réagi quand Christopher l'a approché. Bonjour Christopher Clary. Je vais dire bonsoir. Je vais dire bonsoir parce qu'il fait, il fait très tard là-bas.
Oui. Je viens de rentrer de Rome après le tournoi de tennis là-bas. Donc,
oui.
Je me trouve à Paris à 11h30. Donc, c'est bien. C'est la bonne heure pour parler.
Ah, merci beaucoup, Christopher. Merci. Quel parcours, quel voyage. Alors, votre vie, c'est dans les valises, quoi. Et les hôtels.
Oui, c'est comme ça. Moi, je suis le fils d'un marin.
Oui.
Donc, j'ai passé mon enfance à voyager, à changer de lieu. Donc, je deviens nerveux si je reste au même endroit trop longtemps.
Ah, je comprends. Ça, hein. Je comprends pourquoi est-ce que vous êtes devenu correspondant.
il y a un petit peu de vrai dedans.
Voilà, je comprends pourquoi est-ce que vous êtes devenu correspondant. Alors, quelle a été l'approche avec Federer? Quand vous l'avez approché pour lui dire que vous avez envie de mettre tout ce que vous avez eu comme entrevue avec lui dans un livre sur papier, comment il a réagi?
Bon, d'abord, je pense que c'est Roger... C'est pas le premier livre sur lui, ça c'est sûr. Il y avait des gens qui l'avaient écrit sur lui en Suisse.
Oui, on parle de votre livre.
Il avait connu Roger quand il était enfant, mais pour mon livre,
oui.
Fait qu'il, je pense qu'il était d'abord habitué que les gens avaient envie de mettre ça dans un livre.
Oui.
Mais avec nous, ce qui est intéressant, c'était pas l'objectif. C'était quelque chose qu'on avait fait pendant 20 ans pour le New York Times, l'International Herald Tribune.
Oui.
On avait parlé pour les interviews pour cette presse-là. Donc, c'était pas quelque chose qui était prévu. Mais à la fin, j'ai dit à Roger, il y a trop de choses. Et à mon avis, votre carrière n'est pas terminée, mais vous avez fait la majorité. Je pense que c'est un bon moment.
Oui.
Moi, comme correspondant du New York Times, je n'ai pas le droit de coopérer directement avec quelqu'un sur un livre. C'est interdit par notre entreprise.
Oui.
Mais il m'a pas parlé directement pour le livre. On avait déjà parlé suffisamment, mais il ne m'a pas bloqué non plus. Il était très galant là-dessus. Hein.
Oui. Comme il a toujours été d'ailleurs.
Oui, je pense que non, il a compris. Et à mon avis, Roger, un jour, il va sortir, quand il est vraiment terminé, il va sortir son propre livre, notre biographie.
Oui, oui.
Mais là, moi, jusque maintenant, ce que j'ai fait, c'est le plus complet que j'aurais pu faire. Et c'était basé sur beaucoup d'interviews et beaucoup de contacts avec lui et son entourage. Et un petit peu de moi aussi, pas trop, j'espère, mais c'était surtout, comme vous dites, hein, c'était... un parcours mondial pour suivre Roger.
Oui, c'est pourquoi j'ai dit votre vie, c'est dans les valises, dans les hôtels, dans les avions. J'ai dit, mais Christopher, Claire, il est toujours parti. Là, de Rome, là, il est à Paris pour le nouveau tournoi qui commence bientôt, le Roland-Garros. Alors, comment vous avez vécu cette...
À l'opposé de Roger, je suis en classe économique, moi. Mais en tout cas, ça, c'est sûr que... Moi, les voyages que je fais, c'est les mêmes voyages, mais pas dans les mêmes classes.
je m'attendais pas à ça. Vous voulez dire que vous êtes en classe économique, quoi, c'est pas moi.
Classe économique, oui. Ouais. Au milieu, là, oui.
Ah, oui. Je comprends.
Mais j'ai beaucoup de chance. C'était vraiment quelque chose de très sympa de faire ça. Et vraiment, c'était une passion.
Oui,
une passion.
Oui. Comment, quand c'était fini, est-ce que quand ça vous avez fini d'écrire, vous lui avez fait, après l'impression, vous lui avez donné une copie?
Oui, bien sûr, il a une copie.
Oui.
Et il avait lu et j'ai eu les échos qui étaient satisfaits. Mais on n'avait pas fait l'interview depuis parce qu'avec la pandémie, le fait qu'il ne joue pas pour l'instant.
Oui.
Mais j'ai des grands espoirs de discuter ça en direct avec lui, peut-être quand il revient fin d'année.
On espère.
Il a prévu de retourner pour la Laver Cup à Londres.
À Londres, OK. Parce qu'on ne sait même pas où il en est avec cette histoire de blessure. Là. Je ne sais même pas s'il va se remettre.
C'est pas sûr.
Voilà.
À mon avis, il avance lentement. Il avait déjà annoncé. Normalement, quand Roger annonce quelque chose, ça se passe.
Oui.
Il est quelqu'un qui est, il pense en temps. Il n'est pas quelqu'un qui a envie de se précipiter pour annoncer quelque chose et poser un lapin après. Donc, à mon avis, s'il annonce qu'il va faire cette compétition, le faire d'une forme ou d'une autre.
Comme le bon Suisse. Comme tout Suisse, quoi.
Oui, c'est la moitié Suisse. Roger, il est Sud-Africain et Suisse. Hein,
oui, ça... C'est dans votre livre que j'ai appris que sa mère est sud-africaine. D'ailleurs, moi, je croyais que... Ouais, Suisse, j'ai vécu là, dans la ville où il vit, là, à Bâle, du côté alémanique. Là.
Ah.
Ouais, j'ai vécu là 4 ans avant de venir ici. Vous l'avez suivi comme ça, fédéré de Johannesburg à Dubaï, en passant par Londres, Montréal, New York, Melbourne, Paris, mais aussi à bord d'un jet privé au-dessus du désert, Californie, ou encore la terrasse Grand Hôtel avec une vue imprenable sur le lac de Zurich. Qu'est-ce que vous avez... Vous connaissez sa vie parfaitement, presque.
Voilà, mais je connais la partie publique de sa vie. Mais
oui, non, je ne parle pas de sa vie privée. Voilà. Oui.
Quand la porte du chalet se ferme, moi, je ne suis pas au courant.
Oh, là, Christophe, il a ce côté humoriste. Quel sens d'humour. C'est comme ça que vous faites rire vos collègues là-bas, dans les cabines de presse. Alors, on va faire un petit clin d'œil. Enfin, un petit clin d'œil au tournoi de Rome, quand même. Comment vous avez trouvé ça?
Bien sûr, oui.
Comment vous avez trouvé ça?
Oui, j'ai trouvé que, surtout le tennis, dans certaines parties du monde,
oui.
Et j'inclus le Canada,
oui.
Ça boum, hein? Il y a beaucoup d'effervescence autour de ça, et l'Italie fait partie de ces endroits-là, avec le jeune joueur qui monte.
Oui.
Et puis l'Open d'Italie à Rome est toujours une grande scène, c'est comme dans un film. Hein?
Oui.
Vous êtes près du Tibre. Qu'est-ce qu'on dit en français pour le Tiber? C'est Tibre, pour la fleuve à Rome. Là, c'est tout au bord de ça, et puis il y a plein de terre battue, plein d'Italiens et plein de cris et communications. Comme ils sont des Italiens, ils se parlent entre eux, ils parlent avec des joueurs directement.
Oui.
Et là, c'était un beau spectacle. Et les Canadiens ont joué des grands rôles avec Shapovalov qui a battu Nadal, avec Félix qui a fait face à Djokovic, qui a fait un bon match.
Oui.
Un bon match. Il a perdu, mais il a très bien joué en quart de finale. Et puis il y a Bianca Andreescu, votre joueuse qui...
Oui, la jeune...
C'était la seule qui était pas proche de prendre un set, le numéro 1, Iga Świątek, en quart de finale. Donc, il y avait des bonnes choses canadiennes, mais c'est surtout ce tournoi, c'est un beau spectacle.
Oui, la nouvelle génération canadienne bouge beaucoup. Oui, la nouvelle génération canadienne bouge beaucoup.
Oui, effectivement.
Donc, comment vous les voyez dans quelques années, ces jeunes-là?
Ça dépend de leur santé.
Oui.
Surtout dans le cas d'Andreescu, pour moi, c'est la plus talentueuse.
Oui.
C'est elle qui a déjà gagné le US Open en 2019. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui frappait tous les coups de tennis, qui est très forte physiquement quand elle est en bonne santé. Mais elle se blesse souvent et elle a eu aussi un peu les blessures psychologiques, je dirais, qu'il avait éloigné des cours pendant 6 mois.
Oui.
Donc, elle revient depuis un mois et j'ai parlé avec elle. On a fait une interview à Rome.
Oui.
Et j'avais l'impression qu'elle était bien. Elle était souriante, mais elle avait plus de recul sur les résultats. Je pense qu'elle était plus dans une situation où elle profitait de son tennis et elle était contente de revenir et elle l'avait présenté en disant voilà, j'ai rien sur mon corps, j'ai pas de pansement, j'ai rien.
Oh oui,
pour l'instant, ça va bien.
Wow.
Oui. Non, mais moi, je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Félix aussi, quelqu'un qui est un grand athlète qui travaille très dur et qui a un mental fort, mais peut-être un peu robotique parfois, mais ça change. Et Shapovalov, l'autre jeune qui a eu des bons résultats parfois, est plus montagne russe. Hein. C'est quelqu'un qui est spectaculaire et aérien dans son jeu, et qui est élastique. Et j'adore regarder jouer, mais il peut avoir des jours off plus souvent et aussi qui ne domine pas son propre tempérament, un peu comme le jeune Federer, d'ailleurs.
Oui, effectivement. Vous arrivez à mieux décrire comme ça parce que vous étiez vous-même un ancien joueur de tennis. Hein?
Pas très bon.
Oh là! C'est vous qui le dites. Christopher, c'est vous qui le dites.
ce n'est pas moi, que moi qui le dites, je vous assure.
Oh là. On fait une petite pause musicale et puis on revient sur le livre de Federer, le livre que vous avez écrit sur Federer. À tout de suite, Christopher.
D'accord.
Merci.
D'accord. Ouais.
Never make you happy, girl, it must be the devil. Beautiful lies, don't break my heart, tell me beautiful lies. She's an emotional wreck right now. She got some things on her chest right now. I bet she looking at my text right now. So hit me back, don't do me bad like that. Can't take you back if you in the past like that. All the reason why you been in your bag like that. Don't get this shit confused. You lied to me, I won't believe you again. But fuck that shit, you never see me again. Came in my life and now you leaving again. You telling me beautiful lies. Don't break my heart. Tell me beautiful lies. I want to believe you when you say that you always love me that way. Tell me beautiful lies. Beautiful lies.
What can I say to you? Fully nothing I can take back. You're getting farther from the right track. And I'm in this place with you. Getting down like that. Cause we be falling out. You keep fucking up. You apologize and I suck it up. I just stick around. Try to toughen up. Is the love enough? You're telling me
beautiful lies. Don't you break my heart. Tell me beautiful lies.
I want to believe you when you say that you'll always love me.
Cause they be sleep on us. Licking on that and you feel deep in love. Baby, come and tell me what you need from love. I be here. Yeah. Beautiful lies. Beautiful lies. You had me at hello. Could never make you happy, girl. It must be the devil. Don't break my heart, tell me beautiful lies. Beautiful. I want to believe you when you say that you always love me that way. Tell me beautiful lies.
Ouais, Young Blue avec la complicité de Kehlani, Beautiful Lies. Oui, je suis toujours avec mon invité Christopher, Clary, qui a sorti un livre, a écrit un livre sur Roger Federer, tout nouveau, hein, c'est sorti là depuis, c'est depuis le 12 mai, il est en librairie ce livre, lui aussi, mais lui-même c'est une sommité, c'est depuis plus de 30 ans pour le New York Times et le International Herald Tribune, plus de 30 ans, oh, ouais, longtemps qu'on commentateur d'Eurosport à d'autres télévisions américaines, tout ça, il a le privilège de côtoyer ses plus grands champions. Et il fait la navette toujours entre Boston et Paris où il réside, mais sans oublier les différents tournois. C'est pourquoi je le disais en début de notre conversation, sa vie c'est dans les valises, dans les hôtels, dans les avions. Voilà. Alors, Christopher. Alors, quand on... Mais vous avez une plume, ça je vous le dis sincèrement. Son style de jeu, toute est légèreté et en finesse, a redéfini les bases du tennis et lui a souvent valu d'être comparé à un danseur classique ou un virtuose. C'est beau ça. C'est de la poésie pure.
Mmh. Oui, en tout cas, lui, c'est la poésie pure quand il joue au tennis, ça c'est sûr.
Oui.
Ça, c'est un grand part de son popularité, mais c'est pas vraiment la seule chose qui inspire les gens. C'est aussi sa façon de communiquer ses émotions après les matchs. Et à mon avis, Roger, quand il joue plus, vraiment joue plus, les gens vont garder cette image en tête d'un danseur autant qu'un joueur de tennis aussi. Ça va faire plaisir hein, dans les souvenirs, je crois.
Oui, oui. Dans cette perfection, comme vous le dites. Oui, allez-y, allez-y. Oui,
mais c'est que, mais... Non, mais je pense que c'est le fait que cette fluidité, ça peut aussi cacher tout son travail derrière aussi. Hein.
Oui.
J'imagine que les grands danseurs de ballet... à Paris, au Canada, aux États-Unis, là, on imagine le sueur derrière. Et lui, certainement, il est naturellement très élastique,
oui,
et élégant dans sa façon de se déplacer. Mais toute cette beau tennis, ça cache un peu tout l'effort qu'il avait fourni,
oui,
depuis longtemps pour arriver là.
Et comme vous le dites d'ailleurs, c'est un champion de la maîtrise de soi.
Mm-hmm.
C'est bien dit,
il
ça.
Il a appris à se maîtriser.
Mm-hmm.
Ça a pris du temps. Hein. Ça a pris beaucoup de temps. Et c'est dans ça le livre... En tout cas, pour moi, elle était instructive. C'était d'aller loin dans son enfance et son développement de joueur et de comprendre comment il a fait. Parce qu'il était vraiment différent sur un court de tennis quand il avait 12, 13, 14 ans.
Oui.
Que cette image qu'on a d'un maître de zen,
oui,
qu'il a maintenant, où il ne montre pas ses émotions et il est capable de donner cette impression de surfer un peu sur le match-là. Ce n'était pas du tout le Roger Federer de 14 ans. 15 ans, hein? Très différent. Très,
ouais.
Et le fait qu'il d'apprendre à se dominer n'est pas facile, mais il avait appris.
Oui, oui, oui. Voilà, zénitude, la sérénité, comme on dit. Et vous, en tant que Christopher, à vous, en tant que jeune garçon de Rhode Island, est-ce que est-ce que c'était un rêve d'enfance que vous êtes en train de réaliser comme ça, de côtoyer ces champions du monde là, ces gens, ou bien c'est arrivé comme ça, c'est parce que vous avez joué au tennis que plus tard vous êtes devenu reporter sportif correspondant, ou bien vous avez toujours aimé le tennis depuis le bas âge, ce qui fait que vous l'avez pratiqué. Vous dites quand je vais arrêter.
Dans mon cas, c'était le fait que on a souvent déménagé.
Oui.
Et pour moi, le sport était un peu un passeport pour moi de s'intégrer dans les nouvelles villes, les nouvelles écoles.
Oui.
Et j'ai adoré écrire et lire depuis un très jeune âge.
Oui.
J'aimais beaucoup moins les maths et les sciences.
Ah bon?
J'aimais bien les lettres et l'écriture. Donc, pour moi, c'était un bon mélange, le sport et l'écriture. Et j'ai adoré le magazine en anglais Sports Illustrated quand j'étais jeune. J'ai dévoré ça et j'ai lu les articles A à Z. J'ai adoré. Donc, c'était toujours un rêve pour moi d'être journaliste et d'être écrivain.
Ah ouais.
Et dans un sens, c'est très, très logique que c'était dans le sport parce que c'était quelque chose qui est un petit peu, comme j'ai dit dans le livre, ça, personnellement, ça m'a un peu sauvé. Hein, le fait d'aimer le sport, et
oui,
j'étais pas très, très bon.
Mm-hmm.
Mais j'étais assez bon pour... de jouer dans les équipes de mes écoles et de profiter pleinement de ça.
Mm-hmm.
Et je pense que c'est très utile hein, quand vous couvrez le tennis ou comme n'importe quel sport, mais peut-être vraiment le tennis, quand vous devez jouer à un certain niveau, vous comprenez bien le défi.
Oui.
Et comme ça peut m'émerveiller toujours après 35 ans de couvrage, de voir un coup de tennis qui est bien fait quand je sais à quel point c'est difficile.
Oui,
vraiment, je sens dans mon corps comme c'est difficile parce que je ne suis pas arrivé à le faire, donc je comprends très bien.
Oui, oui. Et je vous dis bravo et félicitations pour vos distinctions que vous avez eues. Alan Tengrove Award for Excellence in Tennis Journalism en 2017. Et puis, again, Scott L. Scott Scott Award from the International Tennis Hall of Fame 2018. Bravo à vous.
Bon, merci bien. Non, mais je pense que si vous restez en salle assez longtemps, les gens commencent à vous donner des prix. C'est bien.
Christophe Clary, auteur du livre Fédéré, le maître du jeu. Voilà, c'est aux éditions Flammarion au Québec. C'est sorti en même temps qu'en France, ici. Sorti au Québec en même temps qu'à Paris, en France. Oui, n'est-ce pas? Et puis vous allez faire.
Exactement.
Vous allez profiter du séjour pour le Roland Garros pour faire la promotion du livre en même temps.
Oui, c'est parce que les gens sont très attachés à Federer et Federer manque au tennis, hein, même s'il n'a pas vraiment joué depuis presque un an maintenant. Il a envie de revenir, mais c'est vrai que c'est un trou dans le sport. Il a 40 ans et les gens ont toujours envie de voir Roger sur un court tennis. Donc, je pense que c'est une certaine nostalgie. Donc, ça tombe bien.
Oui, il manque à beaucoup de fans, à beaucoup d'admirateurs de ce grand joueur, cette icône. Un dernier mot pour ceux qui nous écoutent, les jeunes gens qui jouent actuellement au tennis, qui ne sont pas encore dans les hauts rangs. Quel est le message que vous pouvez leur lancer, vous, en tant que connaisseur du métier? Voilà, vous êtes ancien tennisman et vous les côtoyez tout le temps. Vous êtes dans tous les tournois, vous êtes dans la correspondance des interviews. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes tennismen et aux jeunes tenniswomen avant de vous laisser?
Ça, c'est une très bonne question, mais je pense que le tennis, il y a beaucoup de sports qui sont une bonne école de la vie, mais le tennis est vraiment une bonne école de la vie. C'est un sport individuel.
Oui.
Et vous êtes obligé, comme Roger, à faire face à vos faiblesses.
Oui.
Et de profiter de vos forces.
Oui.
Et c'est vraiment un bon chemin à prendre. Et je dirais aussi que c'est important, avec le tennis, qui est un sport très psychologique, d'explorer la partie mental du sport et de faire beaucoup de visualisation et tomber dans la psychologie de tout ça.
Oui.
Et je pense que c'est très utile.
Mm-hmm.
Parce que c'est un sport intéressant dans le sens où vous avez 5 secondes d'action.
Oui.
Ou plus, peut-être un peu plus.
Il faut réagir.
Vous avez 25 secondes de pause.
Oui.
Beaucoup, beaucoup de temps pour penser. D'autres sports, il y a plus d'action. Et là, en tennis, il y a plein de temps pour penser. Donc, il faut avoir un cerveau qui marche bien.
Oui.
Pas uniquement un couloir qui marche bien.
Merci beaucoup, Christophe Clary, auteur du livre Fédéré, le maître du jeu aux éditions Flammarion. C'est en librairie depuis le 12 mai. Allez, c'est pas une grosse brique, hein. C'est une brique moyenne, 500 et quelques bytes. Ça se lit très bien rapidement. Merci beaucoup à vous. Au plaisir de vous réentendre avec un autre titre, pourquoi pas Fédéré 2 ou bien Nadal ou bien je ne sais.
Oui, on va revenir dans 5 ans pour Bianca Andreescu.
Ah bon, d'accord. Oh, pour Bianca, ok. C'est promis, je vous attends.
D'accord.
Merci beaucoup à vous, Christophe et Clary.
Merci à vous, c'était un grand plaisir.
Bonne soirée à vous, merci.
Vous également.
Ouais. Merci Nicolas, on se retrouve demain. Il m'a fait rire à Christophe, il a de l'humour lui. Voilà, merci à Louise Thibault bien sûr qui est venu nous parler de nutrition et à Christophe Clary, cette sommité en journaliste sportif américain qui fait la navette dans tous les pays. Sa vie c'est dans les valises, dans les hôtels, qu'est-ce que vous voulez, dans les hôtels, dans les tournois. Il a été tennisman lui-même dans ce livre Fédéré, le maître du jeu. C'est en librairie depuis le 12 mai. J'ai dit merci à nos fidèles auditeurs. Et je vous le répète, toutes les émissions de Canal M sont sur toutes les plateformes numériques. En balado-diffusion, comme on dit au Québec, mais en podcast. Internationalement, oui. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et autres. Et autres. Et sur le site de Canal M, vous allez voir. Toutes les émissions sont là-bas aussi. Alors, n'hésitez pas, allez nous écouter. Nicolas, merci encore une fois. Et on se retrouve demain sur les ondes de Canal M, dans le même studio. Sur ce, prenez soin de vos minutes et je vous dis ciao.